16h sur IDFM Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous nous écoutez dans toute l'Île-de-France sur le 98FM et en DAB+, et partout ailleurs sur IDFM98.fr et sur l'appli IDFM Radio. C'est le Carré des Artistes qui commence, l'émission qui vous fait découvrir les talents de notre région, quelle que soit la discipline, quel que soit le style. IDFM Radio met en avant ces femmes et ces hommes passionnés, déterminés dans leur pratique. Axel est avec moi aujourd'hui. Salut Axel.
Salut, ça va? Bah, on n'est pas tout seul dans le studio.
Toujours hein. Présent. Ouais, on va faire le tour. Il y a beaucoup de.
Il y a beaucoup de gens et tout ça. Personnes. Et pour une fois qu'on parle d'un domaine que je connais un peu, parce que le rap, j'ai de la culture musicale, ok, c'est bon. Il y a des artistes de variété, il y a des réalisateurs, des auteurs, etc. Mais là, on va parler sport combat, on va parler boxe, on va parler Muay Thai. Là, ça me parle. Là, je suis dans mon
là,
élément.
Là, t'es heureux, là.
Oui, enfin.
Ouais. Ok, parce qu'habituellement, il n'est pas heureux.
Voilà. D'accord. Il y a ça et la couture. Donc, à un moment donné.
Ok. Donc, vous l'aurez compris, Axel, c'est le.
C'est les conneries.
C'est le relou voilà. De service. Okay. Je peux le dire.
Vous êtes les artistes. Ça. Sabrina, c'est le carré. Moi, je suis le D. Hein, dans le D, débilité, tout ça, c'est mon truc. C'est
et
mon
le
domaine,
truc qui
c'est...
sert à rien.
C'est moi.
C'est Axel.
Voilà.
Et malheureusement, on l'a pris pour la saison jusqu'en
septembre. Je suis comme un chat. Tu me nourris une fois, moi, je reste. Hein. C'est chez moi.
On en a besoin.
Sont avec nous aussi. On peut dire qu'il y a les stagiaires aussi avec nous. Oui.
Oui.
Ça va? La forme? Vous dormez un petit peu, mais c'est normal, vous inquiétez pas, je vous en veux pas. Il fait chaud. Et Adèle aussi nous accompagne sur la technique. Merci. Donc tu l'as dit, Axel, on va parler aujourd'hui de sport. Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas reçu de sportif. La dernière fois, c'était un boxeur aussi. C'était un boxeur. Donc voilà, encore de la boxe, toujours de la boxe. On reçoit Steven.
Steven.
Mendes.
C'est ça, Mendes Furtado.
Furtado, comme la chanteuse.
Lily, ouais.
Lien de parenté, c'est vrai? Non, parce qu'il y a une petite ressemblance en plus. Champion de France Muay Thai, champion du monde Muay Thai et champion du monde K1, kickboxing asiat, on peut dire,
ouais, japonais. C'est ça.
Pour ceux qui ne connaissent pas, et à tes côtés, Kader Bellius, qu'on commence à connaître un peu,
un petit peu.
À la radio, Kader. t'es venu il n'y a pas très longtemps. Sportif, coach, homme de l'ombre. Trop homme de l'ombre, parce qu'on te voit quand
non,
même sur les photos.
Non, je pense
qu'on
me voit un petit peu. Tu sais, à l'époque, on avait cette mentalité de pas trop s'exposer en tant que coach, etc. Mais aujourd'hui, faut se mettre. Enfin, moi, personnellement, mon caractère, c'est de me mettre en avant pour faire reconnaître mon travail, tout simplement. Et je pense qu'en se mettant dans l'ombre, on se ferme des portes. Donc,
ouais.
Donc voilà, aussi bien pour avoir des opportunités pour mes boxeurs que pour ma vie perso, je me mets en avant. Et ça m'a ouvert des portes, d'ailleurs, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, Sabrina.
Ne vous cachez plus.
Non, je me cache plus.
Et même, d'ailleurs, moi, je le dis souvent, même dans la musique, c'est vrai que nous, on reçoit des artistes et on demande aux producteurs, aux beatmakers, à tout le monde de venir parce que, en fait, on fait rien tout seul et
bien sûr.
C'est une équipe.
Et puis, généralement, ils ont des dossiers sur les artistes qu'on reçoit, n'est-ce pas, Maître Gato?
Ça, ce sera après. Axel, toi, t'es toujours pressé. Ça, ce sera après. Tranquille. D'abord, on va les détendre, bien comme il faut, et ensuite, on pourra attaquer. Pas de souci. C'est comme à la boxe. D'abord, on
jauge
l'adversaire. Et après, t'as vu, j'ai retenu.
Bien.
Alors, Kader.
Oui.
Donc, toi, tu es coach depuis un moment. On va faire un petit focus sur toi, et ensuite,
d'accord.
Tu vas nous présenter du coup ton boxeur.
Ok.
T'es boxeur depuis un moment. T'as
Alors,
commencé
j'ai
comment
boxé, J'ai boxé étant plus jeune. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui était passionné par les sports de combat, donc Raouf Bellius, qui a été un grand champion et qui a fait une belle carrière. Ça m'a donné envie parce que je le voyais briller à travers cette pratique et cette discipline. Je voyais tous les bons retours du fait qu'il soit champion et qu'il soit sportif de haut niveau. Et moi, j'étais assez nerveux étant plus jeune. J'ai eu une maladie à mon enfance, c'est la méningite, et qui a créé chez moi un petit trouble au niveau de la nervosité. Je suis un petit peu plus nerveux que nature, et du coup
déjà
j'avais besoin.
Des aides, t'es
voilà,
nerveux,
déjà,
alors là,
algérien
ça rajoute une couche, on n'est pas sorti de l'auberge.
Et en plus de ça, la petite maladie qui en rajoute un peu. Donc voilà, j'avais besoin de trouver quelque chose pour canaliser mon énergie, et j'étais très bagarreur étant plus jeune. Mon grand frère en a eu marre d'avoir des histoires, etc., me concernant. Donc, un jour, il m'a pris à la salle et puis il m'a invité à me bagarrer, mais avec des règles. Donc là, j'ai été agréablement surpris par la pratique, par le fait de me faire battre par des gens que je pensais battre dehors. Et là, avec les règles, ça changeait tout. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai accroché avec avec le dépassement de soi, etc. Donc après, j'ai pratiqué durant quelques années. J'ai fait de la compétition. Je suis monté jusqu'en semi-pro en France. Voilà. Ensuite, j'ai été papa. Donc, j'étais père de famille très jeune. Donc, j'ai dû aller travailler puisque malheureusement, la boxe thaïlandaise ne paye pas. On n'a pas le statut de sportif de haut niveau. On n'est pas reconnu. Donc, on n'a pas de subvention. On n'a pas d'aide financière. Encore maintenant, malheureusement.
Malgré que ça
se développe et que ça se démocratise, le Muay Thai reste vraiment très compliqué à pratiquer, à en vivre en tout cas aujourd'hui en France.
Parle dans le micro, Steven.
Non, je disais, c'est pour ça qu'on fait tous du K1.
Voilà, c'est pour ça que y en a plein qui se mettent à quitter le Muay Thai et à partir en kickboxing ou en MMA. Ou en boxe anglaise, hein, t'as même des gars qui pratiquent le kickboxing comme je vais pas citer de nom, mais qui veulent se mettre en boxe anglaise parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et d'argent. Voilà.
Comment t'expliques? Oui, tu disais pardon que oui. T'as été papa, du coup t'as.
Oui, j'ai été papa, donc voilà. Au niveau financier, c'était compliqué. J'ai dû travailler et puis donc j'ai commencé le boulot et j'ai mis de côté ma carrière sportive. La boxe me manquait énormément, hein, de tout ce qui est adrénaline, le dépassement de soi, le stress avant combat, tout ça c'est vraiment on se sent vivre quand on pratique le Muay Thai et tout ça m'a manqué. Donc du coup je suis retourné me former en tant que coach. Voilà, j'ai eu une période de chômage où j'en ai profité pour me former. Donc je me suis formé en tant que coach et puis j'ai commencé à enseigner à l'âge de 21 ans dans une petite association de ma ville, donc Image 95 pour les citer. Et voilà, j'ai commencé à enseigner à Domont et j'ai formé donc pas mal de jeunes. Mon premier champion, c'était un petit jeune de 16 ans que j'ai rencontré lors de mes interventions sur les communes. Donc il est devenu champion de France, vice-champion d'Europe et vice-champion du monde. Donc voilà, j'ai été, si tu veux, conforté dans l'idée de l'enseignement, puisque mon boxeur boxait et battait des autres champions, d'autres clubs renommés. Donc je me suis dit que on était pas mal.
J'étais en bonne coach, direction. En fait.
Entre guillemets, c'est ce qu'on me dit.
Et du coup, comment s'est passé ce premier coaching? Parce que c'était la première fois finalement. Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment t'as appréhendé le fait de coacher un boxeur et de l'envoyer comme ça en compète?
Alors, j'étais très confiant de l'envoyer en compétition, puisque au bout de quelques entraînements seulement, le jeune arrivait à mettre en place des techniques qui sont très difficiles à effectuer. J'étais vraiment confiant, mais vraiment totalement à 100%, j'étais confiant sur les capacités de ce jeune-là. D'ailleurs, ma hiérarchie ne voulait pas que je l'accompagne en compétition, puisque je n'étais pas un club de boxe, mais j'étais une structure associative qui accompagne des jeunes. Donc j'ai dû taper sur la table pour pouvoir l'accompagner en compétition, chose qui m'ont accepté au final. Et quand je l'ai emmené en compétition, pendant la première saison, zéro défaite. Donc que des victoires face à des grands champions, face à des coachs renommés, et des ex-champions du monde, etc. de Muay Thai. Donc moi, quand je voyais que mon élève arrivait à battre ce genre de pratiquant, je me suis dit bon, il y a vraiment quelque chose à faire, à savoir que je l'entraînais qu'une fois par semaine et une heure. Donc les clubs, ils s'entraînent trois fois par semaine, des deux heures d'entraînement. Lui, je l'entraînais une fois par semaine et il arrivait à me faire des performances de haut niveau. Donc voilà, j'avais deux boxeurs et qui prenait tous les titres tout le temps, tout au long de l'année, alors que j'avais même pas de club encore. Donc
du coup, toi, ça te donnait quand même confiance en tes capacités?
Totalement. Ils m'ont vraiment conforté. C'est ces deux premiers qui m'ont conforté dans l'idée de rester coach et que j'étais fait pour ça. On m'a dit voilà, pour savoir si c'est notre voie, il faut qu'on soit performant. De deux, qu'on aime ça. Et de trois, qu'on soit payé pour le faire. Et c'était, je rentrais totalement là-dedans puisque c'est ma passion. Je peux en parler toute une journée. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai eu des résultats. Donc, en termes de performance, je pense que c'est validé aussi. Et puis, j'ai été payé pour le faire. Donc, je pense que j'ai trouvé ma voie et je m'épanouis là-dedans.
Alors, question à 1000 euros.
Oui.
Je rigole, hein, j'ai pas d'oseille. Mais regardez ses yeux.
Je suis réveillé.
Je t'ai réveillé, hein.
Non,
faut-il être un bon boxeur pour être un bon coach?
Alors, à qui tu poses cette question?
Ah bah, à vous deux. Bah,
question ouverte.
Tu dis non de la tête?
Moi, je dirais que c'est deux choses différentes. Et la plupart du temps, les grands boxeurs, ils ne deviennent pas de grands coachs. On prend l'exemple de l'entraîneur de Mike Tyson. Il n'a jamais mis les gants de sa vie. Pourtant, il a fait l'un des meilleurs champions de boxe qu'il y a eu jusqu'à maintenant.
Ouais. Ok. Kader?
Moi, je suis totalement d'accord avec énormément d'exemples. J'ai vu pas mal de grands champions, de très très grands champions, des légendes vivantes du Muay Thai ou d'autres disciplines qui se sont mis à enseigner et qui n'avaient pas le même impact et la même réussite en tant que coach. Un coach doit savoir accompagner. Un boxeur doit savoir
réfléchir.
Ils doivent réfléchir, mais ils se font accompagner et guider, tout simplement, comme on a tous besoin à un moment donné d'être accompagnés et guidés. J'ai vu de grands champions vraiment catastrophiques en termes d'enseignement, en termes de pédagogie, parce que ils attendent de leurs élèves des choses que eux ont su faire facilement. Et du coup, ils mettent la pression, ils n'ont pas la patience nécessaire pour ça. Et je pense aussi que le fait de ne pas avoir réussi, je parle pour moi personnellement, ne pas avoir réussi à être champion, à faire le nécessaire, je sais ce que j'ai pas réussi à faire. Je sais ce qui m'a manqué, je sais là où j'ai fauté. Et tout ça, aujourd'hui, j'arrive à l'anticiper avec mes boxeurs et leur éviter de perdre du temps sur certaines choses, etc. Et je pense que c'est en termes d'expérience et de personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui aime aider de ma nature. Hein. J'ai été éducateur spécialisé, comme vous le savez. J'ai été animateur. J'aime aider la personne. J'aime rendre service. C'est ma nature première. Donc voilà. Je pense
Tu as trouvé ton métier.
Oui.
Voilà. Mais tu continues de pratiquer pour toi ou...
Oui. La pratique, vraiment, c'est quelque chose qui... Bah, c'est ça qui m'a donné la passion. Hein. C'est la sensation de se dépenser, de taper, etc. Après, c'est vrai que comme c'est mon métier aujourd'hui, je suis coach sportif. J'enseigne toute la journée. Hein, j'enseigne toute la journée. Donc, j'entretiens la machine et parfois, je remets les gants pour le plaisir.
T'es obligé de te maintenir un petit niveau pour rester légitime.
Obligatoirement.
Il ne faut pas qu'il se fasse coucher par ses élèves.
Voilà, avec des champions comme Maître Gator. Qui m'envoie des high kicks hier soir, hein, une petite anecdote. Hier soir, j'ai la vidéo. Non, je suis gonflé ici. Oui, je suis complètement gonflé. Hier, en lui tenant les pao, on répète un enchaînement, il me finit avec le high kick en pleine bouche. Donc voilà, c'est les risques du métier.
Et puis, c'est une vengeance.
Un high kick classique ou un high kick type Muay Thai, parce que c'est pas les mêmes délires.
Non, heureusement, il a retenu. Il a vu qu'il y avait plus la cible, il y avait plus le pao, donc il a retenu le coup, mais je peux te dire, sinon j'aurais dormi.
Le high kick Muay Thai, c'est le tibia qui vient t'épouser le visage, donc c'est moyen.
Ouais.
Du coup, et quelles sont les grandes qualités pour être un boxeur Muay Thai?
Les grandes
qualités qu'il faut avoir, selon toi, Steven?
Moi, je dirais la qualité principale, c'est la dureté. Il faut être dur dans la tête et dur physiquement.
Voilà.
Ça, c'est la base. Parce que...
Quand tu dis dur, pas de cadeau.
Il faut un gros mental.
Ouais,
il faut
pas de
un
cadeau très, très gros et mental. Le corps solide aussi.
Ouais.
Pour savoir encaisser. Et même parce que, en fait, surtout quand on met des kicks en Muay Thai, faut savoir encaisser la douleur qu'on s'inflige à soi-même aussi.
Parce que les bleus.
Ouais, c'est ça.
Chaque
coup en Muay Thai, c'est porté avec puissance. C'est-à-dire que même des fois, si on envoie un coup et qu'on se fait bloquer, on peut se faire mal à soi-même.
Oui.
Autant qu'on fait mal à l'adversaire. Oui, oui. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut être dur. Il faut être précis, peut-être.
La précision dans ses gestes, dans la force qu'on va donner.
Et technique aussi. Parce qu'on peut pas frapper n'importe comment au risque de se blesser. Mais principalement la dureté, que ça soit physiquement ou mentalement.
Alors, peut-être même rigoureux, en fait, tout simplement.
Ouais, rigoureux, la discipline, ça demande. Après, ça demande dans tous les sports à haut niveau. Ouais. La discipline, la détermination. Parce que c'est pas facile d'être motivé tous les jours. Franchement, je pense pas que...
Surtout l'hiver.
Ah ouais, surtout l'hiver.
C'est pour ça qu'il faut un mental, il faut un mental d'acier. Et comme je l'avais dit, comme je l'avais déjà dit, il faut une condition physique hors norme. Parce qu'en Muay Thai, on a le coup le plus puissant qu'un homme peut porter à un autre. Il faut savoir le coup de genou avec saisie. Le coup de genou avec saisie, c'est le coup le plus puissant qu'un homme peut porter à un autre. Et en Muay Thai, on a le droit à cette technique-là. Ça veut dire qu'on a le droit de saisir son adversaire et de lui porter des coups de genou plein pot dans le ventre, au visage, sur les côtes, etc.
Ça fait mal.
Quand on n'est pas habitué à ça, on s'en prend un, on arrête tout de suite le combat. Si on s'arrête à la première douleur, à la première difficulté, on ne pourra jamais être un champion de boxe thaï. Voilà, ça, faut le savoir. Et il faut s'infliger des douleurs à l'entraînement. Il faut s'infliger une préparation à l'entraînement. C'est avant le combat que le combat il a commencé. Voilà les qualités.
Donc si vous voulez faire du Muay Thai, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Il faut s'endurcir, les amis.
Faites-vous mal.
Il faut s'endurcir.
C'est pareil pour tous les sports de contact. Ouais. Hein, c'est vraiment, là, moi je dis Muay Thai, mais c'est pareil pour le kick, le K1.
Tu vas nous en parler de tout ça. La préparation, tu vas nous parler de ta préparation. Tu vas nous parler aussi des difficultés que tu as rencontrées, parce qu'on ne devient pas champion du monde. Voilà, c'est pas une promenade de santé. Et tu vas nous en parler. On va écouter un premier titre que vous avez choisi.
Super.
Pélican, tu nous en parleras juste après.
Ça marche.
Et on se retrouve sur IDFM Radio, c'est le carré des artistes. Aujourd'hui, on est avec Kader Bellius et Steven Mendes Furtado. On parle le Muay Thai. Petit pélican, je vois le petit pélican. Longtemps, je connais le bail de
Manila. Si seulement tu savais, même ma perte débute encore. J'ai cicatrisé ma plaie, mais je te mens pas, c'est pire en pire. Il restait qu'une adresse, on avait capté la filature. Sur mes sons, on va tout détruire. Y'a la balistique et aucun des tueurs. Mon ami, si on cherche, tu vas pas savoir. Silencieux n'est pas pire, ils ont des bavards. On compte les bénéfices de tête, assis dans la porte, ça divise les pas. Je l'ai fait manger sur ma part à moi. Et le pire, c'est qu'il dit le patin. Faut le petit pélican, je. Beaucoup trop de sous à protéger, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Tu l'as mis chez dans l'appartement. J'ai tout fait en catimini. Il se moquait de moi, il est en manutention. Je suis sur un catamaran, mange un dernier ma part. Grand feu pas regarder ma poche. C'est pas pour le style que le copain a une grande sacoche. Mon ami, si on cherche, tu vas pas savoir. Silencieux n'est pas pire, ils ont des bavards. On compte les bénéfices de tête, assis dans la porte, ça divise les pas. Je l'ai fait manger sur ma part à moi. Et le pire, c'est qu'il dit le patin. Faut le petit pélican, je. Beaucoup trop de sous à protéger, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Je l'ai mis chez dans l'appartement. J'ai touché en catimini. Il se moquait de moi, il est en manutention. Je suis sur un catamaran, je mange un dernier ma part. Grand feu pas regarder ma poche. C'est pas pour le style que le copain a une grande sacoche. Faut le petit pélican, je. Faut le petit pélican. Trop de sous à protéger, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger.
Vous écoutez IDFM Radio et nos invités chantonnent. Vas-y, finis la musique.
Allez.
Attends, j'en trouve.
Ah, ça y est, allez, trop tard. T'as laissé passer ton... t'as laissé passer ta chance.
Sabrina, tu comprends pas, il fait semblant. C'est Furtado. Donc lui, à la base, c'est Nelly Furtado.
Vous avez reconnu la voix, Axel. Vous êtes dans le carré des artistes sur IDFM Radio jusqu'à 17h aujourd'hui. On parle Muay Thai. On est avec le champion du monde en titre.
C'est ça.
Steven Mendes Furtado. Accompagné de Kader Bellius, son coach. Et on parle depuis tout à l'heure de cette discipline qui demande rigueur et motivation. Est-ce que tu, donc vous avez choisi ce titre, Uzi Pélican, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi?
Alors je l'ai choisi parce que c'est, en fait Uzi c'est quelqu'un que je connais très bien, on a commencé le, enfin commencé, on a pratiqué le foot en club ensemble, et après on a pris différents chemins, lui dans la musique, moi dans les sports de combat du coup, et du coup pour mon combat au Muay Thai Grand Prix au Zénith de Paris, c'était en janvier, 25 janvier non?
Oui.
Le 25 janvier, du coup, il est venu pour faire mon entrée avec moi au micro.
T'as fait le show.
Voilà, ouais, ça, on a fait un peu le show.
C'est le rituel,
il a
ça.
T'es élu meilleure entrée de l'événement.
Et alors?
Ouais, c'était franchement, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, de rentrer avec quelqu'un, un rappeur au micro, un chanteur, un truc. Donc vraiment, c'est un moment où j'ai vraiment pu prendre plaisir sur mon entrée. Hein.
Explique-nous l'importance de ça, des entrées. Ça, en fait, le match, il commence. Enfin, le combat, il commence.
Ah oui.
Quand on rentre.
Bah, souvent, il y en a. Moi, je dis souvent qu'il y en a qui perdent le combat ou ils le gagnent sur leur entrée, psychologiquement, dans la tête. Parce que c'est soit on arrive à rentrer dans le combat, ou soit on passe totalement à côté. Et dès qu'on passe à côté du combat avant d'être monté sur le ring, bah le combat ça va être compliqué. Et moi c'est ça, je me mets pas de pression particulière. Je me dis que c'est comme aller à l'entraînement et que c'est le moment où on va profiter. C'est le moment parce qu'on s'entraîne toute l'année, c'est dur, les préparations c'est dur, la perte de poids, tout est dur. Donc en fait si on profite pas de ce moment, c'est la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait précédemment. Mmh. Donc du coup, moi, c'est le moment où je kiffe le plus, mon entrée. Des fois, il y a des combattants, je les vois, ils rentrent en 30 secondes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, je prends tout mon temps.
Mais c'est à double tranchant aussi, parce que si tu rentres et que... Voilà, si tu rentres et que tu crois déjà que t'as gagné et au final tu perds.
Ah non, moi c'est pas, je mets pas, c'est juste profite du moment en fait.
Okay.
Mais
tu,
je
tu
me dis pas, ouais voilà c'est ouais. Ça, je rentre dans mon combat tranquillement, mais je me mets pas de pression en fait.
C'est comme l'artiste quand il est sur scène en fait, un boxeur en fait en amont il a vachement travaillé, il a répété ses textes, il a comme un artiste. Mmh. Hein. Et puis quand au moment du combat, c'est là où je dois me présenter devant le public. Mmh. Donc voilà. Et il a ce côté showman qui est vachement aimé, apprécié par le public. Après, comme j'ai pu dire, Steven Mendes, Furtado et Maître Gator, on l'aime ou on l'aime pas, mais il te laisse pas indifférent. C'est-à-dire que partout où on est passé, on a beaucoup boxé à l'étranger, on a beaucoup voyagé, etc. Et on a toujours eu de l'impact. On a toujours ressenti de l'impact de sa présence sur le ring, et toujours des retours appréciés ou non, mais il laisse pas indifférent. Voilà,
c'est ça, c'est bien.
Et comment tu te prépares pour un combat? Tu sais déjà qui est ton adversaire, donc tu vas regarder ses combats et te préparer spécifiquement pour cet adversaire-là, ou tu sais pas forcément sur qui tu tombes?
Bah là, à ce niveau-là, en fait, en amateur, on sait pas forcément sur qui on tombe. C'est par tirage au sort en fonction des inscrits sur la compétition. Mais en professionnel, on a le nom du combattant, donc oui, au niveau auquel je suis. Moi, personnellement, je n'aime pas trop regarder les vidéos de mes adversaires. Mais par contre, j'envoie à Kader. C'est lui qui fait l'analyse. Et ensuite, par les vidéos, par l'analyse, on établit une stratégie. Et du coup, on adapte la préparation en fonction de l'adversaire.
D'accord. Ouais.
Alors, je vais rebondir là-dessus parce que j'observe bien sûr le style de l'adversaire, ses points forts, ses points faibles. La préparation, entre guillemets, je les pousse toujours à fond pour qu'ils aient 3-4 poumons et voilà, qu'ils soient prêts. Moi, pour moi, c'est la clé de la réussite, la préparation physique. Donc, ça veut dire qu'on se fait très très mal au niveau de la préparation physique. Et après, la stratégie, le game plan, on le met en place. Mais il faut savoir que la boxe, ça reste avant tout instinctif, qu'on fait jamais deux fois le même combat, qu'on peut observer un boxeur sur 10 vidéos le jour du combat, il peut nous sortir une surprise ou quelque chose qu'on n'aura pas vu. Donc on s'adapte à la situation, et voilà pourquoi la boxe c'est intéressant et c'est vachement riche, parce que on doit s'adapter tout le temps, et voilà, et c'est pour ça que j'aime ce sport et je suis passionné. Et je voulais dire autre chose d'important, oui, parce que si on se réfère trop à la boxe de l'adversaire, on va s'en oublier, d'accord. Donc moi, ce que je leur dit, c'est faites ce que vous savez faire, vous, concentrez-vous sur votre boxe, votre qualité à vous, d'accord, mettez en place ce que vous, vous savez faire, après on s'adapte et on fait attention à ce que on a pu repérer chez l'adversaire, donc voilà, mais plutôt se concentrer sur soi, bien sûr savoir à qui on a affaire, où on met les pieds, mais d'abord sur soi, voilà.
Parce que le but du jeu, c'est d'imposer son style et de ne pas travailler sur le style de l'adversaire. Voilà. C'est lui qui doit s'adapter à nous et pas nous qui devons s'adapter à lui.
Faut que ça reste fluide en tout cas pour toi et pas, enfin que tu réfléchisses pas en fait.
Voilà, s'il est trop dans la réflexion, le game plan, la réflexion, etc., ça peut te bousiller ton combat, ça peut te bousiller. Ah ouais, le coach il a dit surtout pas ça. Non. Fais ce que tu sais faire, mais voilà, il y a des moments clés, il y a des moments où je vais te demander des trucs et faut que ça sorte.
Prendre des initiatives.
Il faut que ça sorte, exactement.
Du coup, je vais revenir un peu sur ton parcours. Donc toi, tu commences les sports de combat à 15 ans.
Ouais, un peu avant.
Un peu avant. Par quel sport t'as commencé justement je suppose que ça n'a pas été tout de suite le Muay Thai.
Non, alors je fais la version longue ou la version
comme
courte.
Comme tu veux, c'est ton émission.
On a une heure d'émission à faire.
C'est
la
ton
version
émission.
Longue. Je vais faire la version longue alors. Alors j'ai commencé parce que de base je voulais être catcheur professionnel.
Alors, rigole pas.
Au moins t'as le nom. Hein,
celle-là.
T'as le nom.
Rigole pas, tu verrais les préparations physiques qui s'imposent les catcheurs.
C'est dur, le catch hein, quand même.
Le catcheur, c'est le truc le plus flippant à affronter parce que le catcheur, la première chose qu'il apprend à faire, c'est prendre des coups. Donc tu peux taper un catcheur pendant une heure, il bougera pas.
Donc catcheur.
Ouais, du coup.
Tu regardais le catch et tout.
Ouais, c'est ça là. Je sais pas si on peut citer la.
Vas-y.
Okay. Bien sûr que si, Triple H, Undertaker, tout ça. Bah voilà, j'ai les refs. on est de la même génération, donc on a regardé ça sur la même chaîne qui n'existe plus, NT1.
Ouais. SmackDown versus Raw.
Exactement.
On va partir, Kader.
Ouais, on va s'en aller.
Allez, ouais, salut.
Ouais, du coup, c'est ça. Bah, comme toutes les personnes de ma génération, je crois, on a été piqué par cette vague-là. Et en fait, j'ai deux grandes sœurs. Et du coup, c'était la guerre pour choisir qui va regarder.
Je me suis essayé sur elle.
Bah, dis-toi bien que le catch a passé en même temps que Secret Story à l'époque.
Voilà, c'est ça.
Il y avait des gros trucs. Il fallait choper la télécommande en premier, sinon tu regardais pas.
Voilà, c'était dur.
D'accord.
Donc après, en fait, elle me disait pour pas que je regarde. Ouais, le catch c'est faux. Et moi, j'étais encore petit, j'étais encore naïf, donc non, je me disais non, c'est vrai, ils se mettent vraiment des coups de chaise dans la tête, tout ça, là. Et en fait, au fur et à mesure, en grandissant, j'ai vu que voilà, c'était pas possible de se prendre des coups de marteau et de revenir après.
C'est du show, quoi.
Voilà, c'est ça. J'ai vu que c'était du spectacle, et de là, en fait, j'ai découvert le MMA. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est du catch en vrai, parce qu'ils se mettent des coups, ils se mettent des projections.
Alors pas avec
sans matériel, mais ils se mettent des projections, ils se mettent des coups, tout ça. Je me suis dit, mais c'est ce qui se rapproche dans les sports de combat le plus du catch. Et de là, comme j'étais, c'était dans les années 2010 par là, il y avait le MMA en France, c'était pas encore légalisé et pas encore démocratisé. Il y avait très peu de personnes qui connaissaient le MMA. Mmh. Donc du coup, moi je m'y intéressais et je voulais commencer un sport de combat. Du coup, je m'étais mis en tête, ouais, je vais être combattant de MMA. Et de là, bah ma mère, elle voulait pas trop que je fasse de sport de combat.
Ouais, j'imagine, ouais.
Je pense que beaucoup de personnes. Donc du coup, avec un ami à moi qui pratiquait déjà des arts martiaux, on s'entraînait tout seul de notre côté. J'ai vraiment commencé comme ça.
Sans structure. Sans rien,
on allait dehors. Au départ, j'avais même pas de gants. C'est-à-dire que c'était à main nue. On s'entraînait dehors, voilà, sur du béton. Le truc
à pas du tout faire.
Mais voilà, après, dès que ma mère elle a vu que j'étais vraiment c'était ça qu'il me fallait, elle m'a laissé m'inscrire à la boxe anglaise. Donc j'ai commencé par la boxe anglaise, j'en ai fait un an. Il m'est arrivé un petit accident, je me suis pris un coup de tête inintentionnel à l'entraînement, ce qui m'a fait déplacer une dent. Ma mère m'a fait arrêter.
T'avais pas ton...
Si, j'avais mon protège-dent, mais les dents du bas, en fait, les protège-dents, c'est c'est que sur les dents du haut.
Elle a eu peur,
a dit non, c'est un sport trop dangereux, donc t'arrêtes. Donc j'ai arrêté encore un an. Et ensuite, pareil, j'ai continué à m'entraîner de mon côté, tout seul, toujours motivé. Et de là, bah, j'ai un peu grandi, 14, 15 ans. Et là, elle m'a laissé un peu. Elle a vu vraiment qu'elle pouvait rien contre ça, que dans tous les cas, j'allais m'entraîner.
Elle est
revenue. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle m'a laissé. Et là, j'ai trouvé un club de boxe pied-point, le Full Contact. C'est la boxe américaine. C'était une ville. Moi, je viens de Torcy. C'est une ville à côté de Torcy. C'est Croissy-Beaubourg. C'est une toute petite ville. Et du coup, j'ai commencé là-bas parce que vers où je suis à Torcy, il n'y avait pas, surtout à l'époque, maintenant ça va, mais à l'époque, il n'y avait pas
de
à part la boxe anglaise, ouais, il n'y avait rien d'autre. Donc du coup, j'ai trouvé le Full Contact à Croissy-Beaubourg, j'ai commencé là-bas, et de là, ça, c'est parti au bout de 2 mois, je crois, j'avais fait ma première compétition.
Ah ouais, donc assez rapidement.
Ouais, c'est ça. Moi, j'avais fait ma première compétition,
et
ça
alors,
s'était
ça
bien passé. Ouais, et là, j'ai vu que je me suis dit, ouais, je suis fait pour ça en fait. Après, de là, je suis parti jusqu'à la ceinture noire en full contact que j'ai eu assez tôt quand même, je crois, 16 ans. Après, ouais, une année et demie de pratique. Ensuite, en même temps, j'ai commencé le Muay Thai et le K1 et le kickboxing aussi. Du coup, on variait un peu tout avec mon ancien coach Cédric. On mixait toutes les disciplines un peu, c'est-à-dire que je boxais beaucoup sur différentes disciplines, ça me permettait d'avoir du rythme. Et de là, ça s'est enchaîné, ça a commencé à bien aller, c'était que des victoires dans les débuts, jusqu'au titre de champion de France junior. Et de là, champion de France junior, ça s'est enchaîné, je suis passé en senior, champion de France senior en Muay Thai, champion de France en kickboxing, en amateur, après je suis passé en semi-pro et pareil j'ai enchaîné, sauf que j'ai pas pris de titre de champion de France en semi-pro et de là ça a été la première blessure qui met un coup d'arrêt donc j'essaie de motiver, de rester quand même, de m'entretenir.
C'était quoi la blessure?
Alors, c'était une luxation de l'épaule.
Et donc quand voilà un sportif comme ça qui est en plein élan, quand on se blesse, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Bah, c'est une grosse chute de beaucoup d'étages.
Ouais,
c'est une grosse chute. C'est parce que en fait, ça nous interrompt
brutalement
et que surtout c'est sur une courte durée qu'on peut être performant dans une vie. Quand on regarde, on va être performant sur une quinzaine d'années à haut niveau. Donc du coup, ça c'est des bâtons dans les roues, ça nous ralentit vraiment.
Et toi, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis c'est foutu ou qu'est-ce que? Parce que l'épaule, c'est quand même important. C'est
non,
c'est
moi je me suis
qu'est-ce
pas.
Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
Je me suis dit qu'il fallait juste se soigner pour repartir le plus vite possible.
Donc la convalescence, elle s'est fait en combien
de temps? Elle s'est faite assez rapidement. Surtout que j'étais suivi par un bon kiné des sports. Première blessure, j'en ai eu peut-être. C'est l'immobilisation normalement pendant 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, pareil, la rééducation à peu près 1 mois. Et moi, en fait, j'ai pas du tout fait d'immobilisation pratiquement. On a enchaîné directement avec la rééducation. Et du coup, j'ai pu reprendre assez rapidement. Mais après, le problème, c'est que c'est devenu une blessure récurrente. Et à chaque fois,
avec des douleurs chroniques, des choses comme ça. Ouais.
Puis il faut penser aussi à la tôle que sa mère lui a mis en lui disant « Je t'avais dit de pas faire sport de combat.
Ah » ouais.
Du coup, elle t'a fait mal à l'autre bras. Mais et du coup, comment on est quand on est dans des périodes où on fait pas de sport? Enfin, tu dis que peut-être que t'en as fait un petit peu quand même, mais on n'a pas peur de prendre du poids, on n'a pas peur des articulations. Au bout d'un moment, quand on reprend, ça fait mal.
Si, on prend beaucoup de poids. Ouais. Enfin, moi, surtout dans mon cas, moi, j'aime bien manger. Et surtout, on est à la diète toute l'année, en fait, quoi. On est en compétition. Donc là, il y a un gros relâchement et c'est compliqué de revenir. C'est pour ça que là, sur la première, j'ai quand même gardé une certaine ligne de conduite, sachant que je pouvais revenir assez vite. Et j'étais un peu plus jeune. Donc, la cicatrisation, tout ça, le corps, il est un peu plus opérationnel. Mais, comme je disais, c'est devenu une blessure récurrente. Et du coup, je me déboîtais l'épaule souvent en combat. C'était compliqué. Du coup, une fois, c'était la luxation de trop. Elle est sortie, je suis tombé dessus. C'est-à-dire qu'elle s'est cassée en fait en même temps. Et là, l'opération, elle était obligatoire.
Ouais, inévitable. Ouais. Du coup.
Inévitable. Donc là, l'opération, c'était à peu près 9 mois d'arrêt.
Ah oui. Donc
9 mois d'arrêt. Et là, ça a été la petite descente aux enfers.
Donc, t'as pris beaucoup de poids? On l'a dit.
Beaucoup de poids, énormément.
Vas-y, dis-nous le...
Une quarantaine de kilos.
T'es monté à 100, plus de 100 kilos.
115.
Et là, aujourd'hui, tu 80. Fais...
Et là, je suis actuellement, là, je suis aux alentours de 85. Mais
c'est
je suis
ton
descendu.
Poids de forme.
Voilà, c'est
80,
ça.
80, 85 kilos.
Et je descends à 77 pour les combats, ouais. Généralement.
Et oui, parce qu'on parlait un petit peu hors antenne de la préparation physique, de l'alimentation. Et je te demandais s'il y avait des catégories de poids. Et tu me disais que tu pouvais facilement, enfin, ou pas, hein, on dit facilement, mais passer de 80 à 75 kilos...
Facilement, c'est un grand,
ouais,
c'est un
grand avec, mot. Avec de la rigueur, avec
travail,
des petits coups de fouet, tout ça.
Avec beaucoup de sacrifices, ouais. Avec de la discipline. Nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble avec, avec Steven Mendes. Et voilà, moi, je l'ai pas connu tout petit, hein, j'ai connu il y a 2 ans. Donc,
mais
il y a
comment
2 ans,
vous êtes connu d'ailleurs?
Voilà, ça, c'est une chose.
Au kebab.
Ça, c'est une chose qu'on va tenir secrète. Ça, c'est une chose qu'on va tenir secrète. Il faudra suivre la team chocage.fr, excuse.
Chocage.fr.
Chocage.fr.
Tu racontes l'histoire de la rencontre?
Justement, on est en train de réfléchir à faire une petite mini-série. Non, non, une mini-série sur notre histoire, sur notre rencontre, etc. Parce que notre groupe, c'est pas un club. On n'est pas un club, on n'est pas une team, on est 3 gars qui veulent tout faire ensemble et
on
qui veulent avancer. Voilà, on est
des
mercenaires. Le troisième, il est en Thaïlande. D'ailleurs, bah tu fais bien de poser la question. Hier soir, hier, il a boxé en Thaïlande au Max Muay Thai et il a remporté son combat. Donc
bravo.
trois rounds sur 3, il a gagné.
Ouais, c'est pas.
Donc voilà, on
Arthur
est
un sacré coach, Brossier. Hein,
Arthur Brossier, exactement.
Et Kojo.
Et Kojo, voilà.
Chouchou.
Il a aussi le chouchou et il a plein d'autres.
Voilà. Tu te moques, Maître Gator, mais on va
attends,
parler.
On arrive, Maître Gator. on va écouter la deuxième pause musicale et on se retrouve après. On va écouter Bosch. Pareil, un titre que t'as choisi parce que ça te motive,
ouais,
parce
c'est
que.
Ça. DIV, ouais. Bah pareil, c'est DIV et Bosch du coup. Et bah c'est DIV, c'est un grand de qui habitait dans une ville voisine, mmh. Et qui m'a toujours supporté, qui m'a toujours boosté. Il a même fait une musique pour moi. Donc du coup voilà, c'est
qui s'appelle comment, Maître Gator?
Ouais, c'est ça le titre. Ouais.
On va aller voir sur YouTube.
Ah mais il est pas sorti.
Ah mince, ah, c'est pas sorti encore. Il va sortir, ça va sortir quand?
Je sais pas.
Tu
si
poses dessus ou pas?
Sortir? Non, moi non.
Non.
Ouais,
non.
On nous a dit. On nous a dit que tu posais bien là. On
ouais,
a
ouais,
on
ouais, eu on un petit. On mettra extrait. Un petit extrait.
C'était avant.
On se retrouve tout de suite après. Donc Bosch et tu m'as dit.
Et DIV.
DIV. À tout de suite sur IDFM Radio.
Action réaction, danger pour ma fécondation. Ma interaction, problème de communication. T'as plus la pêche, tu bois, ils ont ôté le coup. Les nerfs sont trop montés, faut que le casson coule. Quand t'es lamentable, quand je te nique ta mère, t'attaques comme mental. Ils font trop les chauds, ils terminent percés comme de l'élémental. Tu as mis des WC, le chip il est dressé, la chaîne je la dresse. Le négro est pressé, le ton il est précieux, alors je suis pressé. Deux les têtes dans la place, ta redable sur la plaque. Quand vous la part en chasse, ennemi, envoyé dans la glace. J'ai failli gagner en 4-5 ans, fini coup de sa gueule. Même si toi, n'étais pas toqueur, n'étais pas toqueur. J'ai déjà yo mes trous là, plus pour faire du sale, c'est la grosse. Plus contre pour ta mère, c'est ta belle là. Plus cocktail, maman, j'ai la pono. Je pèse des, pèse des, pèse des, mère et on finit. Ta pute me prend la vexée, yep, j'suis pas fétichiste. La daronne me voit comme un doki, pourquoi? Parce que mon boulot est l'équipe. La daronne me voit comme un doki, pourquoi? Parce que mon boulot est l'équipe. La daronne me voit comme un doki, pourquoi? Parce que mon boulot est l'équipe. La daronne me voit comme un doki, pourquoi? Parce que mon boulot est l'équipe. DIV et Choponita sur la même prod, on déchaîne les enfers. DIV et Choponita sur la même prod, on déchaîne les enfers. DIV et Choponita sur la même prod, on déchaîne les enfers. On déchaîne les enfers, on déchaîne les enfers. On déchaîne les enfers. Automatique et la boîte caresse la jambe, la coque et ses poids à ma droite. Elle est légère à mort, je crois bien qu'elle fait des squats. Pilon au bec, il est légère au max, sa mère. Putain, mais faites-moi la passe, sa mère. J'suis dans l'axe, sa mère, faut que je marche, sa mère. Faut bosser pour faire du feu, puis y'a pas de secret. La monnaie sortira pas de mon cul, même sous l'assertif. On est matrixé, broliqué, comme l'équipe à shift kiff. Bah les coups des sorties festives, qu'on attend, c'est le jour du moment festin. On est dans le bec, on parle pas, j'suis dans pas de match en check. On perd la frappe, les clients sont pleins. Vite à fait le plein, mets du minute en plein, mets du minute en plein. Athéna, y'a les bords, ils sont gars dans le fort, ils veulent péter la R. Voilà c'est mort, le tartinaire qu'on vit, il perdait la forme. Fournirait encore les fois, fils de touche à mon bif. Touche à ma mif, sans pitié je clique, clique. Voilà les clics, sont mis automatiques, clic, 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 clic. Comme DIV, on chicote, Téléma, chicote. Comme DIV, on chicote, Téléma, chicote. La daronne me voit comme un doki, nous voit comme un doggie. Pourquoi? Parce que nous boulot et l'équipe. La daronne me voit comme un doggie. Pourquoi? Parce que nous boulot et l'équipe. La daronne me voit comme un doggie. Pourquoi? Parce que mon boulot et l'équipe. TV et Chobonita sur la même prod, on déchaîne les enfers. TV et Chobonita sur la même prod, on déchaîne les enfers. TV et Chobonita sur la même prod, on déchaîne les enfers. On déchaîne les enfers, on déchaîne les enfers. On déchaîne les enfers. Chobonita, moula. On part à la quoi? On part à la guerre, on part à la. On part à la guerre.
De retour sur IDFM Radio, aujourd'hui on parle Muay Thai avec Kader Belyouz et Steven Mendes Furtado, champion du monde Muay Thai. On échange sur la rigueur que ça demande.
Champion
échange...
récent.
Champion récent, ouais, le 26 novembre, c'est
25.
Ça 25 novembre en Tunisie. Oui. Allez voir la vidéo sur les réseaux sociaux.
Instagram, c'est impressionnant.
Maître Gator.
Maître Gator, c'est ça.
Exactement. Alors Maître Gator...
Voilà, parce que ça, faut qu'on en parle un peu, parce que Maître Gator...
C'est ton heure, là. Respire un bon coup. Alors, Maître Gator, ça vient d'où?
Alors, le maître, ça vient de des experts en arts martiaux. Voilà, le maître, le sensei. Et le Gator, en fait, ça vient de... Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de crêtes.
Mais non. Ah, il sort. Attends, il va sortir les dossiers, Kader, là. Il est en train de fuir. Ah non, d'accord. Je pensais qu'il allait nous trouver une photo. On peut trouver des photos sur les réseaux ou pas?
Non, j'ai plus
sur les réseaux, il a tout supprimé.
Ouais, j'ai plus de photos avec des cheveux.
Donc quand t'avais des cheveux, tu faisais une crête?
Je faisais des crêtes et en fait,
on t'appelait comment?
Voilà, le crocodile,
béton,
genre
c'est...
ça faisait crocodile,
alligator. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et à l'époque, c'était quand je créais mon Twitter. Il fallait un nom, voilà, un petit surnom.
Pseudo,
donc
ouais.
En gros, le alligator, c'est devenu Gator et le maître, maître en martial, voilà.
Mais ça va,
Gator.
Ça va, c'est pas.
Ça va,
c'est
ça va, va ça va.
Histoire,
non, juste ouais. Parce que vu qu'on a grandi à la même époque, c'est-à-dire que c'est lui qui achetait les flacons de Viveldop fixation béton.
Exactement.
Mais non, pas c'est lui, qui passe le mur et
ouais,
qui,
voilà, exactement.
Qui raye le mur en deux.
Et aujourd'hui, parce que la preuve est là, et j'en ai rien à faire, ça peut être un champion du monde de Muay Thai. La preuve est là.
Dis-le.
Tous ceux qui ont mis ce gel à la noix n'ont plus de cheveux aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je balance les dossiers.
T'en as pas mis du coup.
Bah non, j'en ai pas mis, je passe.
Ok, donc Maître Gator, mais ça va, c'est un nom qui claque quand même.
Ça va,
ah, merci.
Ça
merci.
Va, l'histoire est... Ça va.
L'histoire est ridicule et enregistrée. Maintenant, c'est mort.
Maintenant, tout le monde le sait. C'est pas.
Ton prochain adversaire, il va arriver avec un pot de gel. Tu vas pas comprendre.
Du coup, tu gagnes ce championnat du monde. En quelle catégorie?
Celui-là, c'était à 80 kilos. Moins de 80.
Donc, toi, quand c'est 80, ça va. T'es plutôt, content.
Ouais,
75
ça va.
Après, quand tu baisses un petit peu.
77, c'était compliqué. 77, c'était compliqué. Juste parce que il maintenait pas, si tu veux, il restait pas à la limite du poids. Aujourd'hui, il arrive mieux à le faire. Aujourd'hui, même s'il a boxé à 81 kilos son dernier combat, il était en dessous de la catégorie. Il était à 79 kilos.
D'accord.
Ce qui fait que, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus facile pour lui de le faire à 77 kilos. Mais avant c'était compliqué. Là ça fait, comme je te dis, ça fait 2 ans que je suis avec lui. Au niveau de la nutrition, etc., c'était très compliqué au début. On a dû voilà,
des
bien clasher. Ah ouais, ouais, clairement.
Des vocaux
clairement.
Qui durent de 9 minutes.
Oui, oui, oui.
Ah ouais,
en plus Kader, c'est un spécialiste des vocaux.
Du coup je vais te poser une question. Peut-être que beaucoup de femmes surtout vont se la poser cette question. Non, t'inquiète pas, c'est pas chelou. Juste, comment tu fais pour perdre 5 kilos rapidement?
Perdre 5 kilos rapidement, c'est beaucoup la nutrition en fait.
Ouais, tu manges
nutrition.
Quoi? Que de la salade, des fibres, des voilà, des trucs.
Ouais, voilà, beaucoup de fibres, des sources de protéines et c'est en fait c'est par grammes. Moi, je suis suivi par
donc
une
tu pèses
nutritionniste.
Tout
ouais, c'est ça, je pèse. Et il y a également en fait les derniers kilos, parce que on voit beaucoup là avec surtout avec le MMA, ouais, les pertes de 10 kilos en une soirée et tout ça, en fait ça
10
c'est
10 kilos en une soirée.
Je suis anti ça.
10 kilos en une soirée.
Malheureusement, il y a des choses qui se font très très
en fait,
dangereuses
pour
la
peser,
santé
en
des
fait,
boxeurs.
Un kilo, bon.
Non, mais pour la peser, en fait, ils perdent 10 kilos et puis quand ils arrivent le jour J, ils ont repris les 10 kilos
c'est
d'un coup
et voire plus.
Et ça, c'est dangereux, on peut
c'est
le dire.
C'est une pratique qui est assez dangereuse quand même pour le corps humain.
C'est le cutting, ça
s'appelle le cutting. C'est une pratique qui est.
Mais c'est quoi?
Et en fait, c'est se vider de l'eau de.
Tout l'eau, ils se débarrassent de tout l'eau du corps.
Une grosse partie et ça fait perdre du poids du coup et ça se fait soit dans le bain ou soit dans le sauna et moi généralement ça quand je le faisais parce que Kader est pas trop
je refuse même le sauna la dernière semaine
d'accord
voilà. Et ben quand je le faisais je perdais ouais généralement 3 kilos.
Moi, je fais du sauna, je ne perds pas 5 kilos. Hein. Même en...
Oui, mais derrière ton sauna, tu tapes un grec. Donc forcément, non, non, mais ça
avant le sauna, il faut savoir qu'il a fait ses 2 heures d'entraînement.
Ouais. Oui, il y a un protocole.
C'est pour finir. Hein,
c'est puis c'est le sport aussi. Hein. Tu fais aussi de l'entretien physique. Tu fais pas.
Non, puis il y a une chose qu'il a dit qui est très importante. Il est suivi par une nutritionniste. Et pour tous ceux qui veulent entamer des pertes de poids de ça, n'y allez pas comme ça.
C'est ça.
Ouais, faut pas.
Faut se faire accompagner.
Diététicienne, nutritionniste.
Et du coup, le plus dur pour toi, c'est quoi? Alors le plus dur dans ta discipline,
les
dans
vocaux de Kader,
c'est quoi? Ouais, ça on a compris.
Les vocaux de Kader, les entraînements de Kader et tout ce qu'il y a avec Kader.
Non mais dis-toi que un coach c'est comme ta mère sauf qu'il a le droit de te cogner.
Non, non, tu sais, j'évite de les cogner parce que je sais qu'un jour, j'aurais plus la force de pouvoir le faire.
Donc,
on l'a autrement. Bah oui. On l'a autrement par juste être vrai et faire ce qu'on dit, tout simplement. Mmh. Juste être vrai, être là. Et puis, je pense que, voilà, notre relation, elle s'est construite sur une base saine, qui est une source de motivation commune, et ce qui fait que ça donne de belles choses et de beaux résultats. Et bien sûr, le respect, il est dans l'équipe, très très présent, parce qu'on se respecte les uns les autres et on se pousse les uns les autres. Donc voilà, j'ai pas besoin de taper dessus pour me faire respecter, champion.
Et du coup, c'est important d'avoir un coach en qui on a confiance, finalement, qui, je pense, c'est même maintenant un membre de la famille, parce que vous devez être souvent ensemble. Toi, comment tu vois la relation entre un coach et un boxeur?
Ouais, c'est même plus qu'un membre de la famille, c'est la personne que je vois le plus, Kader. Donc du coup, ça crée des liens forts et on vit des moments avec beaucoup d'émotions. Ouais. Donc du coup, ça
resserre les liens.
Ouais. Et faut avoir une confiance aveugle en son coach, surtout dans le monde des sports de combat. C'est pas, franchement, monter sur le ring, c'est pas un jeu. Moi, c'est vrai que je m'amuse un peu, tout ça, parce que c'est dans mon style, c'est dans ma personnalité, mais il y a des réels risques qu'on prend quand on monte, et il faut être préparé. Et il faut avoir confiance en son coach, justement, de savoir si on est capable de prendre l'adversaire qu'on nous a proposé, parce que nous, on a une certaine fierté, un certain ego des boxeurs, ouais, c'est ça. Et du coup, on se pense capable de prendre tout le monde. Et il y a des fois où le niveau, il va être un peu trop élevé, et c'est le coach qui va jauger tout ça.
C'est Kader qui a le dernier mot. Du coup, c'est ton Kader coach qui a le dernier mot. Ouais. Est-ce qu'il est arrivé des fois où toi, t'avais envie d'y aller, où il t'a dit non?
Non, tu m'as jamais dit.
Pas encore. Et justement, j'allais le dire, c'est que les deux boxeurs que j'ai la chance de pouvoir suivre et d'accompagner ont un gros mental et ils refusent rien. Ils refusent aucun adversaire, que ça soit Gator ou Kojo. Maître Gator ou Kojo, les deux, ils sont prêts à accepter tout le monde et à aller prendre tout le monde. Ils ont confiance en moi. Et j'ai 100% confiance en eux aussi, ce qui fait que pour le moment, je ne vois pas un adversaire qu'ils ne peuvent pas prendre. Juste à quelle date, à quel moment et avec quelle préparation, ils peuvent prendre tout le monde. C'est deux boxeurs qui ont les capacités d'être numéro un. Et je le dis pas parce que ils sont avec moi, je le dis parce que j'ai vu le travail accompli, j'ai vu la discipline et j'ai vu la détermination. Et là où ils veulent aller, c'est une demande qu'ils m'ont fait. Sinon, j'aurais pas accepté, j'aurais pas signé, comme on dit. Donc c'est quand j'ai vu tout ça que ça m'a motivé et que ça m'a conforté dans le fait de les accompagner, parce que je sens et je sais qu'ils sont capables de tout prendre.
Mais alors, du coup, parce que tu coaches juste deux combattants.
Oui, que deux combattants.
Deux combattants, mais tu ne penses pas ouvrir un club et avoir un peu plus.
J'ai déjà encadré pendant 6 ans, enfin ça fait plus de 10 ans, 15 ans pratiquement que j'enseigne le Muay Thai.
Il a 65 ans, ça
fait. J'ai 37 ans, j'ai commencé à enseigner à l'âge de 21 ans, d'accord. J'ai encadré deux clubs à la même période pendant 6 ans. Et j'ai formé pas mal de champions qui sont sortis de ces clubs. Quand j'ai fermé mon club privé, j'ai quitté le coaching en collectif et j'ai développé que le coaching privé sur réservation. Voilà, tout simplement pour gagner ma vie, parce que là, le côté associatif et le fait de donner des cours collectifs me permettait plus de gagner ma vie. Donc, j'ai développé le coaching privé sur réservation avec monsieur et madame tout le monde. J'avais arrêté la compétition, ça m'intéressait plus, entre guillemets. Après quelques années, j'ai eu un jeune que j'avais formé à l'époque dans un de mes clubs qui est revenu me voir, donc Kojo, Arthur Brossier, qui m'a demandé de le raccompagner en compétition parce qu'il souhaitait faire carrière. Moi, ça m'a manqué, l'excitation du ring, etc. Donc, je l'ai accompagné. Et puis, voilà comment j'ai renoué avec la compétition. Et juste après, justement, notre rencontre, elle est due à Arthur Brossier, Kojo, qui boxait un jour et j'étais son seul coach. Donc, on sait que dans le coin d'un boxeur, on a le droit à plusieurs coachs. Donc, un coach, un soigneur, etc. Il m'a demandé s'il pouvait ramener un ami de son club de MMA, puisqu'il s'entraînait en MMA sur Paris avec un gars qu'il connaissait bien. Et là, le premier jour que je rencontre Maître Gator, c'était un combat de Arthur Brossier. Donc, dans le vestiaire, je vois un petit gros qui arrive. Un petit gros, c'est t'abuses, hein, j'exagère. Mais voilà.
Tu le connaissais, toi? T'en avais entendu parler?
Bah ouais, je le connaissais de
par. Il y a les réseaux?
Par rapport à Arthur.
D'accord.
En fait, c'est Arthur qui m'avait vu. Parce que, ouais, comme je disais, il avait un peu arrêté le coaching
en compétition.
Et après, c'est de là que j'ai vu. C'était qui en fait? J'ai vu que c'était quelqu'un.
Du coup, c'est quoi l'objectif là pour vous deux? Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Quels sont vos objectifs? Maître Gator, je te laisse. Non, tu regardes Kader, c'est Kader qui commence, qui fait l'intro.
Comme tu veux.
Il sait pas à quelle sauce il va être mangé.
Déjà, il est champion en titre, donc maintenir le titre.
Voilà, déjà, il a fait vraiment une belle saison cette année. Donc, il a été champion de France. Il a gagné son combat par KO au premier round. Il a été, champion du monde de K1 en Italie, donc à l'étranger. On sait très bien que c'est beaucoup plus difficile de prendre un titre quand on n'est pas chez soi à l'étranger. Donc, il a gagné aussi en Italie cet été le titre de champion du monde en K1. Aujourd'hui, il confirme avec le titre de champion du monde en Muay Thai. Aujourd'hui, maintenant, c'est de continuer la progression, de continuer à maintenir le cap et puis d'asseoir sa domination sur sa catégorie de poids. Voilà, pour être vraiment le numéro un de sa catégorie, tout simplement. Et il y a pas mal d'objectifs, si tu veux, pour la suite de la carrière, puisque voilà, Steven Mendes, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, il a énormément de casquettes, il a énormément de compétences et de qualités. C'est quelqu'un qui fait du kickboxing, du Muay Thai, il s'adapte à toutes les disciplines et pourquoi pas le voir en MMA puisqu'il a pratiqué pendant pas mal de temps et il est très doué et il tourne déjà avec des champions qui boxent déjà à l'UFC. Voilà, il est sparring partner de certains champions.
Maître Gator,
il y a de belles choses pour la suite.
Toujours ready.
Toujours.
Il y a de très belles choses pour la suite et c'est vraiment faire monter la sauce autour de notre groupe qui est donc Chocage.fr. On a un site internet Chocage.fr si vous voulez nous découvrir un peu plus en profondeur. Et voilà, et je te laisse reprendre pour tes objectifs perso.
C'est ça. En vrai, c'est taper tout le monde. Taper les gens pour vivre.
Là, d'ailleurs, si vous êtes dans la rue à ce moment-là, ne sortez pas parce que
non. La rue,
non, mais non, ça, on va en parler parce que pour clôturer l'émission, il nous reste quelques minutes. Mais
jamais dans la rue.
Ton objectif, c'est vraiment en fait de te dépasser tout le temps et d'accepter. Voilà. Et puis soit on gagne, soit on gagne.
Ça fait partie du truc. Ça fait partie.
On perd pas. Soit on gagne, soit on apprend.
Exactement. Ça, c'est une bonne mentalité. Souvent, voilà, on boxe très souvent. Déjà de monter sur le ring, c'est une victoire. C'est une victoire en soi parce que on a accepté le combat. On est allé au bout de soi-même. On s'est dépassé. Donc c'est déjà une grande victoire.
Le fait de monter sur le ring. J'ai un petit truc à rajouter, c'est que nous, on prend tout le monde. Ça veut dire, et même moi, il m'est déjà arrivé de boxer le jour même. On m'a appelé le jour même pour boxer le jour même. De perdre le poids dans la même journée. D'arriver en retard au gala et de boxer. Et ça, maintenant, il y a très peu de boxeurs qui le font. Nous, on n'a pas de carrière protégée. Voilà. On prend tout le monde. Qui veut, il vient. Après, c'est sûr que du coup, moi, dans mon parcours, il y a quelques défaites. Mais c'est des ajustements. Et de combat en combat, après, ils vont tous finir par comprendre.
Exactement. En fait, on a eu des chutes, mais on les prend comme des leçons. Qu'est-ce qui n'a pas... Voilà, on questionne notre pratique. Nous, tomber, ça nous fait pas peur. Parce que... comme dans la vie, il faut chuter. Comme quand on est enfant, on n'est pas né en sachant marcher. Donc moi, ce que je dis, c'est que voilà, la chute, elle nous fait apprendre, elle nous fait grandir. Et puis si on en tire le son, eh ben, elle nous fait devenir meilleur, tout simplement.
Puis une défaite,
et
ça fait toujours du bien.
Bien, ça fait pas de mal, en tout cas. Ça fait pas de mal. Tout dépend de la défaite. Dépend de la défaite, parce qu'il y en a qui plombent. Il y en a qui plombent le moral. Moi, j'ai vécu une défaite avec Gator qui se blesse sur l'épaule qui déboîte sur le combat, or que il démarre le combat en trombe.
C'est frustrant
quand ça arrive comme ça. Après, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. On prend des leçons, on note ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Et puis on avance. Et puis voilà.
Du coup, la carrière, c'est jusqu'à quel âge à peu près? T'es jeune encore? T'as
26 là.
26.
Ouais, jeune, tout est relatif.
ça va.
Là, j'arrive dans le sport de combat. Ouais, la force de l'âge, c'est dans la trentaine à peu près.
Ouais.
Après, c'est généralement, ça dépend des combattants.
À 33, 34 ans, faut raccrocher.
Ouais, même un peu plus tard.
En MMA, on peut aller beaucoup plus loin. D'accord. En MMA, on peut aller beaucoup plus loin. En Muay Thai, à mon époque, c'était à l'âge de 35 ans, c'était compliqué. Après, en MMA, on voit des personnes même beaucoup plus âgées, parce que il y a moins il y a de l'impact, il y a des gants beaucoup plus petits, mais on peut moins recevoir de coups en s'accrochant à l'adversaire, etc. Tu te fais pas compter aussi.
Cerveau, il prend moins.
Voilà.
Le truc, c'est ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais les boxeurs de haut niveau ont souvent des problèmes au cerveau liés à cause des... comme pour le rugby en fait, à cause des impacts à répétition.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Alors avant qu'on rende l'antenne, moi j'aimerais bien quand même donc on a parlé de Muay Thai, on a parlé de sport de combat, mais j'aimerais bien qu'on rappelle les valeurs de ce sport, je pense qui sont bien importantes. Sûr. Parce que c'est pas de la violence d'ailleurs, c'est des règles, vous l'avez dit, c'est de la rigueur et c'est de l'entraînement et c'est bien cadré.
Exactement. Vas-y.
Ouais, c'est des disciplines qui véhiculent beaucoup de valeurs. Et moi, je pense que surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les générations qui sont plus jeunes, ouais, il y a beaucoup de violence, de la violence gratuite parfois. C'est des choses, je pense, qu'on pourrait éviter si la plupart d'entre eux feraient des sports de combat. Parce que justement, ça apprend à se canaliser. Pour certains, c'est ça qu'ils ont besoin. Des fois, ça va être par manque de confiance en soi qu'ils veulent prouver aux autres.
Ouais.
Et en fait, les sports de combat, ça apprend tout ça. Et quand tu pratiques, généralement, t'auras pas besoin de t'en servir dans la rue ou quoi que ce soit pour prouver à qui que ce soit. Ça, tu le fais pas. Ça te met un cadre, et même dans la vie de tous les jours, ça t'apporte le dépassement de soi, la confiance en toi, c'est-à-dire que même la motivation, et ça te forge un mental à toute épreuve. Donc du coup, c'est un sport que je conseille, enfin les sports de combat, c'est des sports que je conseille à tout le monde, quelle que soit la catégorie sociale,
le sexe, les femmes, allez-y.
Non, mais il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent les arts martiaux. Moi, dans ma discipline, c'est des femmes qui rapportent dans le taekwondo, c'est les femmes qui rapportent les médailles.
Faut pas hésiter.
Donc réveillez-vous les mecs, hein, vous êtes
voilà. Non, aussi le sport, aux animateurs et aux éducateurs pour les jeunes de leur proposer ce genre d'activité qui peut permettre d'extérioriser des non-dits ou des frustrations qu'on peut avoir. Le fait de taper, ça fait énormément de bien, donc pour la jeunesse c'est une bonne pratique, et pour vous les dames aussi.
Bien sûr. Chocage.fr pour rester à l'affût. Kader Bellioun sur Instagram. Maître Gator sur Instagram également. On va vous suivre. Du coup.
Il y a intérêt.
Le troisième membre de l'équipe, Kojo.
Ah oui, Arthur, Kojo, Brossier aussi sur Instagram. Je reviendrai avec lui à son retour de.
Ça passe vite.
Ouais, ça passe très très vite. Il a de belles choses qui arrivent aussi pour lui. Donc on reviendra en parler si tu nous invites à nouveau.
Bien sûr. Est-ce qu'on a tout dit?
Ouais, on a
Maître
tout dit.
Maître Gator, mot de la fin.
Du coup, j'aurais pas eu le temps de faire mon freestyle.
Vas-y,
allez.
Non. Freestyle, c'est parti. Non, il y a pas de rigolage.
Tu mets bien devant le micro.
J'ai oublié mon texte.
Allez, c'est l'heure du freestyle, Maître Gator, en direct live de IDFM Radio. Je suis dans le chocage.
Ouais, je suis dans le chocage FR avec Kader. Il y a Kojo sur terre, équipe Tchalé pas haut, je suis blessé. Masse, ramène-moi un petit verre. Il faut que je me mette bien avant de commencer la séance.
Allez, bravo.
Reste dans le Muay Thai.
Ouais.
très.
C'est pour ça que je lui dis ouais, on va continuer la boxe, champion.
Arrête
pas.
La musique. Merci à tous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de la radio, idfm98.fr. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Moi, je vous retrouve à 22h pour réviser vos classiques rap R&B. Et puis, bonne fin de journée à tous. Merci Axel.
Merci à toi, Sabrina.
Salut Sabrina.
IDFM Radio, 98FM.
Retrouvez-moi, Virginie Voraz, du lundi au vendredi à 6h45 et 12h45 dans l'instant bien-être. Je vous donnerai des astuces et conseils au naturel pour votre santé et pour booster votre morale. Du lundi au vendredi, l'instant bien-être sur IDFM.
Je suis à l'échelle, oui. Vite en Balenciaga. Make our travel over.
Ah, mon monde. Demain, chou. Pas chou. Et ça, je te le dis même quand.
And me.
Écoutez vos sons préférés sur IDFM Radio.